Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires, d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Alors bonjour à toutes et à tous et puis bienvenue dans cette histoire de voir, histoire au pluriel. Aujourd'hui, vous n'entendez pas votre animateur préféré. Pas tout de suite, disons. Partez pas tout de suite non plus, puisqu'il va arriver dans un instant. Jean-Pierre Lefebvre est avec nous. Jean-Pierre Lefebvre qui n'est pas à Bordeaux, puisqu'il s'entraîne avant de s'élancer sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc des chemins, des mobilisations contre Macron pour sa destitution, contre le gouvernement de Michel Barnier, au chemin qui nous fait marcher sur en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On va pouvoir revenir avec toi, Jean-Pierre, sur tes motivations, toutes ces motivations qu'il y a à l'idée de marcher. Toi d'abord, peut-être Jean-Pierre, salut, et puis signaler pourquoi toi tu marches depuis si longtemps.
Oui, bah merci beaucoup hein, Xavier de cette présentation. Alors je ne sais pas si je vais manquer aux éditeurs de La Clé des Ondes dans le cadre de cette émission Histoire de voir, histoire au pluriel. Enfin, toujours est-il que moi, ça va me manquer, ces rendez-vous hebdomadaires, parce que ça m'intéresse. Je vous présente des dossiers. Je parle de l'actualité, puisque le titre de l'émission, c'est Histoire de voir, histoire au pluriel. Eh bien, justement, Histoire au pluriel, c'est une histoire que je vais entamer jeudi. Je pars jeudi sur les sentiers de Saint-Jacques. Alors c'est une motivation là qui me tient à cœur depuis que je fais de la randonnée, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans. Et je parcours pas mal de sentiers, surtout des sentiers en France, hein, il y a de quoi faire dans ce pays magnifique. Et pour beaucoup de randonneurs, le sentier de Saint-Jacques, c'est quand même un sentier un peu mythique et un peu particulier. Alors j'ai toujours repoussé pour des raisons de vie quotidienne, vie de famille et autres différentes occupations nombreuses. Et puis là, c'est décidé, je me lance sur ce sentier en espérant bien sûr pouvoir atteindre le but. Alors je fais un peu feignant, je ne pars pas du Puy-en-Velay ou de Paris ou de Bordeaux, je pars du col de Roncevaux, tout un symbole, pour aller sur Saint-Jacques, et je compte le faire en 30 étapes.
Alors là, d'ailleurs, tu es à Anglette, je crois, donc tu as un paysage qui est tout autre que celui que nous, on a du côté de Bordeaux, et puis tout autre de celui que tu as d'habitude quand tu es en studio pour faire ton émission Histoire de voir, Histoire au pluriel. Pour revenir à ma question, c'est vrai que cette idée de marcher, cette idée de la randonnée, qui là est certes un exploit d'une richesse intérieure très forte, mais qui n'est pas un exploit sportif. Comment toi tu vis cet instant de la marche et pourquoi ça te semblait aussi important qu'on puisse en dire un mot dans le cadre de ton émission Histoire de voir, Histoire au pluriel, Jean-Pierre?
Oui, alors tout à fait. La motivation, alors beaucoup, quand j'ai commencé à dire autour de moi, parce que je suis très bavard, que je partais faire les sentiers de Saint-Jacques, tout de suite, bon, c'était on va dire des idées un peu toutes faites. Alors ça y est, attention de ne pas tomber sur Dieu, etc. etc. Bon, il faut savoir, c'est des chiffres de 2022, que la plupart des utilisateurs des sentiers de Saint-Jacques, leur motivation est à environ entre 10 et 15% religieuse. Le reste, ce sont des personnes qui veulent faire une rupture, qui les concerne hein, sur leur vie du quotidien, qui veulent mener cette expérience, comme tu le rappelais, qui peuvent être une expérience sportive, une spirituelle. Il ne faut pas le nier, la spiritualité, ce n'est pas forcément la religion. Hein, on est tous touchés par cet aspect de nos personnalités et chacun y trouve des réponses. Et puis, c'est aussi quand même un sentier qui est un sentier historique, hein, puisque, alors pour la petite histoire, je vais faire ça très brièvement. Tout ça, c'est pour ça que je ne suis pas religieux, j'essaie d'être spirituel le plus possible. Ça ne marche pas toujours. Et donc, c'est Saint-Jacques, c'est un apôtre. On lui a coupé la tête parce que les chrétiens étaient un peu remuants à l'époque. Et puis alors, on ne sait pas pourquoi, mais son corps est arrivé et s'est échoué sur les plages de Galice, en Espagne. Et de là, on a commencé à raconter que c'était Saint-Jacques, blablabla, blablabla. Alors, comme on était à la fin des années du 8e siècle, que nos amis musulmans avaient envahi la péninsule ibérique, eh bien, la reconquête était partie, repartie du nord de l'Espagne, aidée un petit peu par Charlemagne, qui était venu à la fois prêter main forte aux chrétiens, puis aller un petit peu piller Pampelune, ce qui avait coûté la vie à notre ami Roland à Roncevaux, pour la petite histoire. Et donc, Saint-Jacques est devenu un mythe, et ce mythe a été l'occasion de à la fois célébrer le saint et en même temps de célébrer la reconquête, donc une croisade. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le mot à Saint-Jacques est attribué le mot de matamor, le fameux matamor qu'on retrouve là. Il a maté les morts, comme on dit, comme tu vois.
Ce qui est un lien forcément avec cette spiritualité et aussi du coup ce cheminement qui est individuel, ce qui m'a l'air en tout cas d'être un lien fort avec les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ce sont les solidarités qui existent entre ceux qui font ce chemin. Il y a des lieux-étapes, il y a des rencontres. C'est ça aussi que toi tu souhaites documenter durant les prochaines semaines de ce périple, Jean-Pierre.
Alors oui, Xavier, c'est ça aussi. On part seul pour la plupart, hein, seul ou en couple. Ou, voilà, bon, c'est mieux de partir seul, je trouve, parce que c'est beaucoup plus disponible pour ces rencontres. Et puis, comme on est dans une émission d'histoire, c'est quand même un pèlerinage qui a été jusque, allez, au XIIIe siècle très très populaire. Donc, il y a énormément de constructions de lieux d'accueil, des ermitages, des monastères, des églises, des villages, des villes qui d'ailleurs revivent. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que le sentier de Saint-Jacques a connu, après le XIIIe, XIVe siècle, c'était les grandes périodes de maladies, de peste, des choses comme ça. Ça s'est arrêté et ça n'a repris qu'en 1880, dans ces eaux-là. Le pèlerinage a repris de vigueur à peu près à ce moment-là. Alors, on était dans une période politique particulière. Hein, l'Église avait été bien chahutée en France, hein, on le sait, par les laïcs. Hein, la République s'installait, mais en Espagne aussi, c'était pas si simple que ça. Et donc, l'Église aussi était dans une reconquête. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. En France, c'était le culte marial, hein, qui se mettait en place, l'Immaculée Conception, vous connaissez. En Espagne, c'était pas mieux, hein, puisqu'il y avait ça. Et c'est vrai que ça a été aussi une façon de reconquérir les esprits, en fait, pour l'Église. Alors, tout ça, c'est avec la mort de Franco, je vais très vite, hein, excusez-moi, c'est tombé un petit peu en désuétude. Et le phénomène de la randonnée, le phénomène d'une aventure relativement limitée, parce que bon, faut pas exagérer non plus, hein, on est en Espagne, on n'est pas au bout du monde, a fait que c'est redevenu populaire. Et alors, il y a des chiffres tout à fait incroyables, c'est que l'année du Covid, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui se sont mises sur les sentiers. Ça s'atténue un petit peu, ça redevient un peu plus normal, hein, on touche à 30-40 000 personnes, sachant que parmi elles, tout le monde ne fait pas tout le sentier, mais des parties de sentier. Alors, je sais pas si j'ai répondu à ce que tu me demandais, Xavier, mais voilà, bon, je suis dans un cadre, comme tu le disais tout à l'heure en début d'interview, tout à fait incroyable, hein, j'ai la Rune sur ma gauche, la mer devant moi, Anglet de l'autre côté, donc je suis déjà un petit peu parti dans ma tête.
Oui, je lisais même en effet qu'il y avait près d'un demi-million de personnes, apparemment 446 000 pèlerins qui ont été sur les chemins de Compostelle en 2023, d'après une évaluation qui est faite en tout cas qui est relatée par des différents sites pèlerins de Compostelle, les chemins vers Compostelle, etc. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de monde. Et à cela et à travers l'histoire, et comme tu le mentionnais, et tu le mentionnes également dans un article que tu as fait sur le site de ton association, assopourquoipas.org, ces chemins de Compostelle ont forcément, à travers le temps, permis des constructions qui sont très représentatives aussi de ce cheminement. Tu mentionnes notamment les ponts, qui sont une des composantes importantes partante de cette voie de Compostelle. Et il y a bien sûr également l'un des emblèmes, la noix de Saint-Jacques, ou la Saint-Jacques de Compostelle, ce coquillage, en tout cas, qui représente également ce cheminement. Toi-même, tu l'arbores en ce moment ou à partir de jeudi?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, bien sûr, la coquille Saint-Jacques, c'est la symbolique. Alors, théoriquement, la coquille Saint-Jacques, tu la portes une fois que tu arrives à Saint-Jacques-de-Compostelle et tu as en fait 3 jours supplémentaires de marche pour aller dans un Finistère galicien qui est un lieu aussi très symbolique. C'est là où les coquillards, on les appelait comme ça, les jaquets aussi, c'est un autre nom hein, pour ceux qui ont fait ce chemin, allaient brûler leurs vêtements de marche. Bah bien sûr, ils ne se baladaient pas tout nus, hein, mais ensuite ils se réhabillaient normalement. Et là, ils prenaient sur la plage, ils prenaient des coquilles, une coquille Saint-Jacques, qu'ils arboraient et tout. Alors, pour répondre à ta question, non, je ne porterai pas la coquille, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Je fais ça dans un cadre religieux, mais quand même, je triche un peu, puisque il y a notamment à Bordeaux, tu citais les lieux où on peut se retrouver, une maison qui accueille les pèlerins de Saint-Jacques, hein, qui est, je crois que c'est rue des Argentiers, si je ne me trompe pas. Et là, j'ai pris un petit badge, d'ailleurs, leur donner un peu d'argent, parce que c'est aussi une façon de contribuer à l'accueil. Et d'ailleurs, il faut dire une chose, cette maison de Saint-Jacques, a la particularité, en dehors des grandes périodes de flux, de pèlerinage, d'ouvrir ses portes à des personnes, SDF. Alors, je ne sais pas si c'est systématique, mais ils l'ont fait et je crois qu'ils le font régulièrement pendant l'hiver, de façon à accueillir des personnes qui sont sur les chemins, mais pas forcément volontaires. Donc, vous voyez, donc c'est aussi ça ce que tu expliquais tout à l'heure et ce que tu me posais comme question. Se retrouver sur ces chemins de Saint-Jacques, c'est pas simplement une partie de plaisir au sens bon, on est en vacances et tout, c'est un effort et c'est aussi de réfléchir à ce que l'on fait, ce que l'on est, comment on se comporte aussi. Le lien avec l'autre, avec la nature aussi, parce que c'est important de voir cette nature, même si elle est pas toujours comme je suis aujourd'hui dans un état magnifique, hein, le Pays Basque, bravo, et c'est tellement beau. Il y a des éléments magnifiques, mais sur le chemin, bah, on se tape des fois 200 km sur un plateau, alors soit au froid, soit à la chaleur. Bon, c'est toujours pas forcément, c'est une façon aussi d'être modeste. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Alors du coup, peut-être dernière question, Jean-Pierre, mais en plus de ce cheminement intime, spirituel que tu vas avoir, est-ce que tu vas aussi permettre peut-être de nous ramener un cheminement intellectuel sur le chemin qu'il reste à faire pour les gauches, pour essayer d'emporter la victoire la prochaine fois?
Bah écoute, c'est marrant que tu passes à cette question-là, parce que c'est vrai que vu les derniers mois écoulés, les campagnes de division, y compris dans nos rangs, qui nous ont tous marqués, blessés et tout, le fait que j'ai 73 ans aujourd'hui et que, comme le dit un homme politique, faites mieux que moi, je me suis retrouvé dans cet état-là, cet état d'esprit un peu écœuré, un peu, même quand même, même beaucoup, et puis me dire 50 ans de militantisme pour en arriver là, ça pose vraiment des questions. Et c'est un petit peu, tu as raison de mettre le doigt là-dessus. C'est aussi une façon de faire le point, de reprendre sa place ou de prendre une place plutôt, qui n'est pas forcément celle d'être sur la barricade du jour au matin, mais de dire bon, il y a d'autres personnes qui arrivent derrière, qui doivent construire et prolonger les combats qu'on a menés à leur façon, façon qui n'est pas forcément toujours, je parle pour moi, hein, qui compréhensible ou voilà, qui est vraiment différente de mes propres façons de faire depuis maintenant 50 ans. Je dis pas qu'elles sont bonnes, elles ont fait leur temps peut-être aussi et qu'il faut laisser la place aux autres. Non pas parce que je me désintéresse, mais parce que il faut savoir ce que je disais. Être modeste, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, et la modestie, c'est aussi de dire, bon, ben voilà, tournons une page. Alors bon, pour ce qui est de l'avenir du quotidien, bien malin qui pourrait dire ce que ça peut donner, Bon, je reste toujours convaincu que ceux qui font l'histoire et qui la déclenchent, tout le travail qu'on a fait sur les gilets jaunes est là pour le prouver, c'est le peuple. Et que le peuple, pour l'instant, est trompé, ballotté, méprisé comme d'habitude, et il lui reste que la colère, qui aussi est une forme une forme d'expression, hein, qui doit être respectée, qu'elle se manifeste beaucoup plus du côté du vote du Front National. Ils sont fâchés, pas fachos, hein, les gens qui votent pour ça, j'en suis convaincu. Et qu'il faut travailler, reconstruire. Alors moi, je vois ça au niveau de mon échelle. Là, j'ai milité pour l'élection de Nicolas Thierry, NFP, qui fait un travail qui respecte les gens pour qui il s'est fait élire. Et bon, tout au long de ces vacances, là, j'ai suivi la boucle de dialogue, de discussion, qui touche quand même 400 personnes sur Bordeaux Centre. Et bon, j'ai pu mesurer l'évolution aussi politique de cette boucle où chacun est sorti un peu de son quant à soi. Alors moi je suis écolo, moi je suis LFI, moi je suis PC, moi je suis machin, etc. Avec un dialogue qui se met en place aujourd'hui. Et je pense que les partis ont leur utilité, mais je crois que la dynamique qui doit être mise en place, c'est de dire qu'on n'a pas forcément l'un ou l'autre raison sur l'un ou l'autre en face, mais qu'on doit composer ensemble parce que voilà, les temps ont changé, quoi, comme disait un chanteur que nous aimons bien, et que si tu as l'occasion de trouver dans ta discothèque, c'est Bob Dylan, hein, les temps changent, donc pas forcément négativement, ça peut être aussi important. Voilà la conclusion. Alors, ce que tu m'as proposé aussi, Xavier, pour terminer là-dessus, et je te remercie de cette interview originale, tu en parleras si tu veux, c'est que toutes les semaines, je vous envoie une petite capsule comme ça, si vous êtes disponible et si ça marche bien. Pour vous dire où j'en suis, hein. Ça se trouve, je pars jeudi matin, et puis peut-être que samedi j'arrêterai parce que j'ai mal quelque part. Voilà, bon, mais pourquoi pas risquer ou tenter. Il faut toujours tenter, toujours essayer. Et puis je vous tiendrai au courant de ce que je vois ou des rencontres que je fais, s'il y a intérêt à ça. Chers amis, chers auditeurs et auditrices de la Clé des Ondes, continuez à soutenir votre radio, hein, la radio qui se mouille, pour qu'il ne pleuve pas. Et j'espère qu'il ne pleuvra pas trop, parce que l'humidité, marcher à l'humidité, c'est pas terrible. Toujours est-il qu'il faut pas non plus baisser les bras et qu'il faut répondre aux appels du NFP. Hein, je pense que c'est important et qu'il faut virer Macron, qui est un autocrate, qui est une ordure et qui a saloperé, en fin de compte, la démocratie française, la démocratie en général. Voilà, qui donne des leçons au monde entier tout en étant complice des massacres qu'on peut vivre, qu'on voit sous nos yeux. Je pense au peuple palestinien, parce que ça c'est aussi un truc qui m'a écœuré de voir l'attitude du gouvernement français, des médias français et du système, en fin de compte, qui le compose à l'égard de ces massacres-là. Alors, moi, je n'oppose pas un massacre, un emprisonnement à un autre, mais franchement, il faut être cohérent, quoi, quand même, quelque part, hein. Voilà, je vous embrasse tous et toutes. Merci beaucoup, Xavier, à toi, pour ce travail que tu fais. Et puis, lâche rien, continue, et c'est important. Merci.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On se retrouvera donc effectivement la semaine prochaine à partir de 13h, le rendez-vous habituel, histoire de voir, histoire au pluriel, qui sera bien entendu maintenu. Je signale que en parallèle, bien sûr, des militants et des copains à nous poursuivent un certain nombre de combats, et je pense en particulier, à ce travail qui est en train de se monter pour les 24 et 25 octobre. Nous aurons l'occasion d'en reparler sur la Clé des Ondes à plusieurs occasions, mais je le signale parce que c'est ton ami Pierre Robin avec qui tu travailles et tu chemines également beaucoup, qui est l'un des coordinateurs de cet événement. Parole de femmes en migration. La Clé des Ondes est partenaire à plus d'un titre de cet événement qui arrivera donc dans un mois et demi. On aura le temps d'en reparler, mais c'est un petit clin d'œil également à ton ami Pierre Robin et puis à tous les camarades qui travaillent également à l'organisation de ce rendez-vous qui fait un peu suite effectivement à deux précédents colloques, Révolte populaire en Aquitaine et la valse des ronds-points. au cahier de la colère. Merci beaucoup, Jean-Pierre, et puis à très vite. Et puis, bien sûr, on va s'écouter Bob Dylan en suivant. Merci encore à toi.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.